résistance et mémoire. Les jeunes Gersois à la recherche de leurs histoires.
Bonjour, nous sommes Amélia et Aïssa. Nous avons rencontré Abel Escudé, le propriétaire du château de Cour à Pont-Saint-Père. C'est dans cette grande maison que se cachaient les résistants.
C'est là aussi que la nuit du 14 décembre 1943, 20 jeunes ont été arrêtés par la Gestapo. Abel Escudé était tout petit, mais il se souvient de l'opération de minuit dans son village.
Abel Escudé, j'habite à ce qu'on appelle cette maison, qu'on appelle le château. À Ponsan, voilà. Je suis né dans une maison qu'on appelle la Borde, à 200 mètres du château. Le château, à l'époque, n'était pas habité. Et c'est depuis une quarantaine d'années que ma mère, qui en était propriétaire à l'époque, m'a donné cette maison qui était en triste état et qu'on a retapé progressivement.
Pourquoi et comment votre mère s'est-elle engagée dans la résistance, du coup?
Ma mère, il n'y avait pas que ma mère. Ma mère ne s'est pas engagée de façon voyante. Non, ma mère était propriétaire. C'est difficile parce qu'il y avait aussi mon père, à le coup. La maison qu'on appelle le château a été réquisitionnée à la débâcle, en juin 40, quand l'armée française a été vaincue et éparpillée. La mairie, auparavant, à la déclaration de guerre, d'ailleurs, dès 39, le maire ici de Ponsan a réquisitionné le château qui était vide à l'époque, en cas de besoin. Il n'y avait pas d'habitants, ça servait de loger de matériel agricole. Les premiers occupants, ça n'a pas été des apprentis maquisards, ça a été un groupe de chevaux qui a été démobilisé en même temps que les soldats d'Auch qui sont venus par la suite avec le lieutenant Miller, qui sont restés quelques jours, un groupe de chevaux, et également, ce qui est signalé par aucune histoire, un groupe de chiens, des chiens qui servaient à l'armée, chiens de guerre, chiens de pour flairer, voilà. Personne n'en parle. Groupe de chiens qui sont restés un jour, deux jours, quoi, et qui ont été éparpillés par la suite. Les hommes ne sont venus qu'après.
Et les hommes, comment ils sont arrivés au château?
Alors, les hommes sont arrivés. Alors, c'est si vous voulez des renseignements plus historiques de première main, il vous faut consulter l'histoire du corps franc-pommiès par le général Séroni en deux volumes. Le premier volume qui nous concerne, c'est la clandestinité, et le second qui sera la résistance. La clandestinité, ça correspond jusqu'en juin au débarquement américain. Ça, c'est la clandestinité, parce que les actes ouverts de résistance, armés de résistance, commencent après le débarquement américain. Auparavant, c'était ce qu'on appelle la préparation, entraînement, préparation, et pas simplement là. Ça, c'est un tout petit point.
Mais combien de personnes, vous savez, combien de personnes vivaient dans le château en clandestinité?
Alors, la clandestinité aussi est un bien grand mot. Il y a dû y avoir jusqu'à 15, oui, peut-être 20, mais 15 très régulièrement. Clandestinité, pas du tout, puisque quand ils ont été démobilisés, Miller et d'autres personnes se sont entendus avec l'administration des eaux et forêts pour faire transformer ces anciens soldats d'Auch en bûcherons, qui dépendaient donc du service des eaux et forêts. La forêt de Berdousse en particulier était une forêt domaniale et ils étaient officiellement sous la responsabilité des eaux et forêts. Et ils étaient là, ils touchaient une petite solde pour couper du bois. Quand vous lirez les mémoires de Paul Schwartz, vous lirez un peu l'ambiance qui régnait au château. Ils étaient là, occupés, et puis le reste du temps, un peu d'entraînement, ils se promenaient. Mais c'était des jeunes de 20 ans, Alors, c'était pas toujours triste.
Quel âge avez-vous pendant l'opération de minuit?
Alors, j'avais exactement 6 ans, moins quelques jours, puisque mon anniversaire, c'est le 19 décembre, et on est donc le 14. Donc, j'avais 6 ans. C'est ma première année d'école, et c'est pour ça que j'ai été le seul témoignage direct que je puisse dire, et visuel. Je me souviens encore, ma mère, quand je suis parti à l'école, m'a dit « Tu vas voir du mouvement, ne change pas d'itinéraire. » Alors, j'ai traversé le pré, et non pas passé par la route, et je me souviens deux, trois voitures, et c'est tout. Et ensuite, je me souviens aussi de ce que m'a raconté, a raconté mon père. Il ne racontait pas tout le temps. Ce même jour, ça, c'est pour moi, je ne l'ai pas vu. Je savais qu'il se passait des choses à l'étable. Ces jeunes gens, il fallait qu'ils s'alimentent. Ils avaient 4 sous, donc ils achetaient un veau par-ci, des volailles par-là, des moutons. Et ce jour-là, mon père était chargé de porter un veau, mort bien sûr, à son frère dans une commune voisine qui s'appelle Saint-Maur, et c'était destiné par un autre maquis. Et ce jour-là, très tôt, à 5 heures du matin, d'après les témoignages de Schwartz, ils ont été cernés à 3 heures du matin, mais là aussi il faut faire attention parce qu'il y avait 2 heures de décalage entre l'heure solaire, qui était l'heure locale, et l'heure allemande, qui était en avance de 2 heures. Bon, et ce jour-là, à 5 heures du matin, mon père est parti avec la voiture à cheval, et un veau dans la voiture à cheval, et lui, bien sûr, est arrivé donc sur le virage qui va vers la ferme, et il a vu donc des camions, des voitures, des gens, et comme il dit lui-même, qu'est-ce qu'il faut faire si tu t'arrêtes, tu es suspect. Il faut continuer. Il continue, innocent. Il continue innocent. Et c'est un soldat allemand qui l'a aidé à le guider pour passer une roue de la voiture à cheval dans le fossé, hein, pour pouvoir doubler les voitures. Et là, il est arrivé à Saint-Maur, chez son frère, où il devait livrer donc cette bête pour notre maquis. Alors je ne raconte pas des histoires militaires, c'est des histoires d'avitaillement, de bouchers. Et arrivé là-bas, ils ont vu arriver, pas en Finistère, c'était la nuit encore, une voiture allemande. Alors, trouille de mon père, bien entendu. Consolé par son frère, dit non, c'est des bons. Et c'est une équipe du maquis des environs, là-bas, qui avait emprunté, entre guillemets, une voiture allemande dans un garage. Bien sûr, il n'y avait pas d'armes dedans, hein, et qui devait avoir quelques casquettes identiques, avec un peu de kaki, et qui se servait de ce stratagème pour circuler. Voilà. Et alors, il est revenu rapidement à la maison pour avertir ma mère, et c'est ma mère, elle-même alertée par ma grand-mère, Lali, qui ne courait pas vite à l'époque, qui ont pu intercepter à temps le lieutenant Miller, qui lui revenait de Mirande. Ils l'ont intercepté vers 10 heures du matin, à un endroit qu'on appelait, nous, le sorbier, c'était, je me souviens toujours, un immense sorbier, maintenant il n'y a plus que de la broussaille, voilà. Et lui-même, le lieutenant, qui commandait cette unité, et il commandait plus que cette unité, il surveillait, il était logé officiellement là, mais il surveillait tout un secteur. Hein. Il n'avait rien pu faire, bien sûr, avec son malheureux pistolet, et puis devant quand même quelque chose d'important. Et il est allé observer ce qu'il pouvait voir depuis le bois de pin qui se trouve au-dessus du château. Moi, j'ai pas assisté à la capture, j'en ai entendu parler ensuite. Le lendemain, il y a eu une surveillance, puisqu'on était au jardin, au potager, qui est derrière le château, avec ma mère, tous les trois, moi l'aîné, 6 ans, mon frère 4 et ma sœur 2. Et on a vu longtemps tourner au-dessus de nous un avion de surveillance, un petit avion de surveillance. Je me souviens, ma mère nous a vite amené sous son arbre pour se cacher, bon. L'avion devait surveiller s'il y avait du mouvement. Deux personnes ont donc échappé à la rafle, le lieutenant Miller et un des garçons qui était logé dans une ferme voisine à l'Escalette, actuellement chez Vignon, l'Escalette. Ce mois de décembre 1943, d'après ce que j'ai appris en lisant Général Cerroni et Paul Schwartz, ils avaient l'ordre de ne pas coucher au château. Ils savaient qu'ils étaient menacés, il y avait eu des captures un peu partout dans la région. Et tout à fait par hasard, il y a eu une réunion de groupe le dimanche 13. Et au lieu de chacun regagner la ferme où il était caché, ou la maison où il était caché, à la fin de la journée, fatigué ou pas, j'en sais rien, ils sont restés là et c'est comme ça qu'ils se sont fait coincer.
Parce que le château servait de refuge, pas pour dormir, mais pour se réunir, c'est ça?
Pour tout, non, c'était pour dormir aussi. C'était leur adresse officielle. Simplement, ce mois-là, il y a eu tellement d'alertes. Vous lirez ça et vous ferez raconter par des historiens un peu plus sérieux que moi voilà. Si, c'était leur domicile. Hein. C'était leur domicile. En plus, ils ne craignaient rien. Ils étaient ouvriers forestiers à la forêt de Berdousse, ou cantonniers. Enfin, ils donnaient des coups de main à droite et à gauche dans les fermes.
Justement, excusez-moi, mais ici, le château, ensuite, il a servi comme lieu de résistance malgré l'opération de minuit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont restées, qui sont revenues, d'autres résistants qui se sont...
Non, ils ne sont pas revenus parce que la maison était grillée, comme on dit. Hein. C'était grillé. Par contre, l'histoire militaire du château continue. L'histoire militaire continue. Il y avait, en même temps que les résistants français, entre guillemets, enfin, locaux, il y avait également les guérilleros espagnols dans la région. Il y avait un fort groupe de guérilleros espagnols qui se sont engagés. C'était des militaires espagnols, des guérilleros espagnols, qui avaient une unité à eux et qui combattaient en particulier dans l'Armagnac. Mmh. Et il y avait un groupe qui combattait. Ils étaient en accord, en coopération avec les CFP et l'autre mouvement de résistance qui dépendait plutôt du PC. Ceux qui dépendaient du PC voulaient lancer la guerre, non pas contre l'Allemand, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner, mais contre les collaborateurs, contre les Français partisans d'Allemagne.
Et donc le château a servi, les a accueillis, c'est ça ?
Oui, les Espagnols, oui. Alors ils les a accueillis, mais ils les a accueillis à partir du 6 ou 7... ça, je l'ai lu, hein. Je n'étais pas témoin, quoique j'ai entendu des choses là. 6 ou 7 juin 44. Pourquoi ? Parce que la veille, il y avait eu un combat sanglant dans une commune de l'Armagnac, on appelle Castelnau-sur-Lovignon. Et là, il y a eu pas mal de morts, 7 morts, et les guerriers espagnols se sont réfugiés et sont venus là pendant quelques mois. Ils ont occupé jusqu'au mois de août-septembre, où une grosse unité de guérilleros espagnols est allée dans le Val d'Aran, rentrée dans le Val d'Aran pour essayer de reconquérir l'Espagne, sachant que le débarquement venait d'avoir lieu. Ils étaient persuadés que les Américains, les Anglais, etc., allaient les aider à afficher Franco hors de chez lui. Une anecdote, pour ça on s'en souvient, les Espagnols étaient armés. Et ils ont trouvé une ou deux petites armes que cachaient les maquisards, et ça leur a permis de lever des planchers, de crever quelques cheminées pour trouver d'autres armes. Et ils avaient une mitrailleuse puissante. Mon père se souvient, ils s'entraînaient, c'était sur la porte centrale, il y avait un drap tendu à la vigne, environ 500 mètres plus loin, et ils s'entraînaient là. La mire était un peu haute. Une heure après, ils ont vu arriver quelqu'un de Saint-Michel, à 8 km de là, en vélo, essoufflé. Baissez la mire, s'il vous plaît, et cassez-les. Depuis Ponsan, les guerriers espagnols cassaient les tuiles de Saint-Michel à 10 km, 8-10 km. Ça, c'est une anecdote, mais authentique.
Pour revenir à l'opération de minuit,
qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ?
Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous dire pas grand-chose, parce que ce serait trop sincère. Je suis à la fois étonné et intéressé favorablement de voir qu'un groupe de jeunes comme vous, qui viennent de Pioche, c'est pas rien, 30 bornes, même je sais pas, si vous avez été véhiculé en voiture, en bus, je sais pas, avec vos profs, en service commandé, c'est bien, c'est une bonne façon d'ancrer vos souvenirs d'histoire. Oui.
Merci d'avoir répondu aux questions.
Et merci à vous d'être venu. Hein,
L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par des élèves de terminale STMG du lycée Pardaillan à Auch dans le Gers, dans le cadre de la réalisation d'un reportage sur l'opération de minuit. Ce projet autour de la transmission de la mémoire a été accompagné par Sophia Marchesin et Sophie Perroiguet, les journalistes de l'association La Chance, avec Alexandra Josse de Médias Communs à la réalisation, sous l'égide de leurs professeurs, messieurs Duteil, Guy et Néré, qui ont accompagné le projet tout au long de l'année. L'ensemble des élèves tiennent à remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans le cadre de ce projet. Cette émission est placée sous licence Creative Commons 4.0, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.